Catalyse sur Fréquence Mistral, l'émission qui vous fait découvrir votre région d'un point de vue musical.
Bonsoir et bienvenue sur Fréquence Mistral Digne que vous pouvez écouter sur 99.3 FM. Bienvenue dans votre émission Catalyse où ce soir nous recevons Cédric de Cèdre le Libanais alias.
Bonsoir.
Voilà, bonsoir Cédric.
Bonsoir.
Avant d'aborder tout ce que nous avons à balayer par rapport à ta carrière musicale, je voulais en profiter pour donner quelques rendez-vous à venir sur le département, en particulier sur, vous le savez maintenant, les scènes ouvertes. Vous donner quelques éléments. Surtout la semaine prochaine qui va être très, très chargée sur les scènes ouvertes avec le jeudi 21 novembre une scène ouverte à l'Âge de Bière à Digne, suivi le samedi 23 d'une scène ouverte plus orientée slam et spoken word à Fort-Calquier au Chichi Pompon, l'espace Salon T dans la vieille ville de Fort-Calquier. Et puis la semaine suivante, une nouveauté, le jeudi 28, une scène ouverte qui s'ouvre au Bar Joc, le bar à jeux de Digne-les-Bains, qui va donc inaugurer une nouvelle scène ouverte qui va être organisée par l'association Catalyse et en particulier par François, que je salue. Donc voilà pour les nouvelles qui arrivent. À nous maintenant.
Oui Thibaut, à nous.
Alors, avant de parler vraiment de tout ton parcours, toi personnellement, j'aime bien poser cette question. La musique, ça te vient d'où ?
Ah ben la musique, ça me vient de je sais pas vraiment en fait, ce serait difficile d'expliquer d'où ça me vient. C'était comme quelque chose de naturel, c'était comme une chose qui faisait partie, comme un organe qui était à l'intérieur de moi, et c'est sorti très tôt, à l'âge de 6 et 8 ans. Je découvrais les instruments dans ma jeunesse et tout, et ça m'a toujours suivi, et j'ai toujours gardé une guitare avec moi, et... Voilà, ça m'a servi à faire les colonies, à draguer les filles, avancer, et puis j'ai joué dans le métro, et puis j'ai avancé comme ça, et puis donc la musique a toujours fait partie de moi. Puis mes parents m'ont aussi fait écouter beaucoup de très bonnes musiques, que ce soit du classique, de la variété, du jazz, toutes sortes de musiques, et donc j'étais un auditeur attentif déjà quand j'étais très jeune.
D'accord, et ils étaient musiciens ?
Non, pas du tout. Mon père était un écrivain et ma mère infirmière, donc ils n'étaient pas du tout dans la partie, mais ils avaient, pour eux c'était important, ça faisait partie. La culture, c'était quelque chose d'important.
D'accord. Et est-ce que tu as une formation, du coup, musicale ?
Alors,
tu as commencé tôt ?
J'ai commencé très tôt, donc j'ai attaqué une formation à l'âge de ma majorité. J'ai fait un an à l'American School of Modern Music à Paris, puis qui était très orienté à l'époque, c'était vraiment les années 80, très métal, tout ça. Donc moi, je ne me suis pas fortement retrouvé parce qu'il y avait une espèce d'idée qu'un musicien, ça devait être un véloce, presque un sportif de haut niveau à l'époque, et pas avoir le plus de possibilités de vélocité. Donc c'était pas forcément, moi j'étais plus limité techniquement. J'accompagnais un saxophoniste en jouant des standards de jazz dans le métro. Bon voilà, il fallait que je joue du Van Halen et tout ça, c'était un autre truc, mais bon, ça m'a beaucoup appris. J'ai appris beaucoup de choses sur l'harmonie, sur la musique, parce que je suis autodidacte à la base, donc ça m'a permis d'avoir quelques jalons techniques et théoriques qui m'ont bien servi tout au long de l'année, même si j'ai compris beaucoup de choses bien après.
D'accord, et donc c'est vraiment la guitare ton instrument ?
C'est mon instrument de prédilection, puis la guitare ça m'a amené, et la composition m'a amené à toucher un peu à tous les autres instruments, donc déjà au début de la MAO, le clavier, donc là je m'y suis mis, et puis j'ai eu la chance aussi de passer un moment avec un ami percussionniste que j'ai rencontré à Paris, pareil dans les années 80, et qui m'a initié à la percussion, donc ça c'est aussi une part de mon travail d'intégrer la rythmique, la percussion, donc conga, bongo, savoir jouer les maracas, tout un tas d'instruments qui paraissent pas importants mais qui ont une technique spécifique chacun l'un comme l'autre, Et donc maintenant, je, voilà. Puis après, je me suis intéressé à la basse aussi, parce que ça faisait partie des objets qui me permettaient, des instruments qui me permettaient de poser des maquettes complètement, et voilà quoi. Donc maintenant, je touche un peu à peu près à tous les instruments. C'est ce qui me permet de produire des disques de manière autoproduite et tout à fait seul.
D'accord. Et à cette époque-là, là, entre 18 et 25 ans,
oui.
tu jouais plutôt seul ou tu étais dans des groupes, dans des...
Ah non, là, c'était vraiment la période des groupes. On a joué dans des groupes de punk, dans des groupes de reggae. Donc, je jouais avec un duo dans le métro, un duo jazz, saxo-guitare. Donc, on faisait les rames, tu vois. C'est vraiment ça, ça a été très formateur. J'en ai fait des heures et des heures. Donc là, j'ai appris mes accords majeurs, mes accords mineurs. Et le tempo, la mise dedans, tout ça. Mais bon, oui, non, à l'époque, on travaillait dans plein de formations différentes. Dès qu'on avait l'occasion de rencontrer des musiciens et d'aller jouer avec eux, on y allait.
D'accord. Et à quel moment cette passion t'a permis en fait d'en vivre ?
Très vite. En fait, c'est la personne, Alan, le saxophoniste, qui m'avait invité donc à travailler avec lui. Lui, c'était vraiment sa croûte, hein. Il gagnait sa vie comme ça. Il était musicien professionnel, mais un peu dans le déclin. Il avait eu des succès, pareil. Il était bien plus vieux que moi, il avait une soixantaine d'années. Moi, j'avais à peine 20 ans. Et lui, il m'a montré qu'économiquement, déjà, ça pouvait tout de suite marcher. Parce qu'on faisait des guinches dans le métro. Des fois, c'était surprenant. Des fois, j'arrivais, j'avais gagné en 4 heures la moitié du salaire de mes parents. Donc okay. Ça pouvait arriver. Saint-Michel, tout ça, on arrivait, il y avait des foules. Puis il y avait des lieux après sur Paris qui sont notamment le Quai Bleu, pour ceux qui s'en souviendront, où il y avait des artistes vraiment, Salif Keita, Manu Dibango et d'autres musiciens de l'afrobeat et de la musique jazz africaine qui venaient et qui faisaient vraiment des grands sets. Et là, on avait vraiment des spectateurs et tout ça. Et donc il y avait de l'économie, il y avait quand même des gens qui donnaient des billets de 10 francs, des billets de 50, et on s'en sortait bien. Quand je suis reparti dans le sud, parce que moi je suis né dans le sud, donc régulièrement je retournais chez moi pour passer des vacances voir mes potes, et donc là on a monté des petits bandes pour faire la manche dans au festival d'Avignon, à Manosque on est venu à l'époque quand ils faisaient la fête médiévale par exemple. Okay. On venait avec habillé en sarrasin, en jouant du djembé dans la rue, et c'était finalement économiquement possible, mais c'était pas une économie c'était pas stable. Puis on vivait d'amour et d'eau fraîche et d'un peu de musique, mais on n'avait pas besoin de grand chose, donc ça fonctionnait. Et à partir de 91, je suis rentré dans le régime de l'intermittence. Mmh. Donc à partir de là, j'ai vraiment abordé l'aspect plus professionnel avec où ça marchait un peu mieux, où le travail était plus régulier, puis surtout avec un engagement technique professionnel plus important. C'était pas quand on voulait s'engager, il fallait faire les tournées, il fallait
là travailler. Du coup, c'était avec quelle formation?
C'est une formation qui s'appelle SAT, qui était une formation de jazz rock, on va dire jazz progressif. On a commencé notre répertoire ici dans la région, un endroit qui peut-être les gens vont se dire, ça s'appelait le Queen Paradise à Manosque, qui est un lieu de nuit et qui faisait jouer des groupes en live. Et puis après, en fait, on a rencontré un producteur qui nous a permis de faire des tournées. Et à partir de là, on a monté un studio avec un ami à La Brianne, qui s'appelait le studio 203. On a travaillé, et c'est là qu'on a rencontré Negrita. Et donc, les producteurs parisiens de Negrita nous ont engagés pour faire une saison sur la Côte d'Azur. On a remplacé les Gypsy Kings à la Voile Rouge. Et là, c'était parti.
Olé.
Olé. Et là, on faisait en moyenne 120-130 dates par an. Donc là, ça ne s'arrêtait plus. Et ça a duré 20 ans. Et
d'accord.
Puis, voilà. Puis au bout d'un moment, tout s'arrête en 2003, l'intermittence a flageolé. Et donc là, j'ai préféré quitter le navire avant de couler avec.
Ok. Et après 2003 du
Et coup... après 2003, j'ai eu une petite fin d'activité, j'ai fait autre chose, j'ai fait de l'agriculture, j'ai fait de la maçonnerie tout en travaillant. Donc c'est là que j'ai sorti mon premier disque solo. J'ai écrit, qui s'appelle Cèdre, c'est un disque éponyme, mais que là, je ne t'ai pas amené, mais... Qui était vraiment je travaillais le matin et je faisais ma musique la nuit. Donc j'avais réussi à aménager une vie où je me contentais d'avoir de quoi payer mon loyer, mais en même temps de vivre ma passion de la musique pleinement. Mais j'avais quand même un statut professionnel, j'avais juste plus envie d'être dans le régime du chômeur de longue durée, parce que bon, quand tu fais 20 ans d'intermittence, après on ne parle plus pareil au niveau de l'administration, on dirait que tu abuses un peu quand même. Même si je travaillais, c'était comme ça, c'était à l'époque, tout était remis en question. Et à partir de 2011, j'ai repris le statut en faisant ce projet de cover un peu vraiment complètement arrangé. Et donc,
alors attends, parce qu'on en a parlé hors antenne,
oui,
de ton projet.
C'était donc, ouais, mais c'est
si,
un projet.
Si tu pouvais nous en dire.
Alors bon, c'est un projet qu'on a monté avec un batteur. Ah oui, ma ouais. Elodie me rappelle de vous parler de ma fat aussi, parce que ça, c'était une dizaine d'années avant, mais ça a été le début où j'ai repris l'intermittence, donc avec un groupe de composition très fort en reggae. Mais ce qui me faisait vraiment vivre, c'était une économie de petits groupes qui faisaient les campings, qui faisaient des petites covers arrangées, de manière à monter les dossiers et avoir des vrais salaires, des vrais cachets, ceci, cela, quoi. Donc, voilà.
Donc ton projet de cover...
Ah oui, la Marabunta. Donc la Marabunta avec Gilles Vezin et Christine. C'était très sympa. Donc on a écumé toutes les Alpes de Haute-Provence à cette époque-là. Et c'était très sympa. J'en ai tiré beaucoup de bonnes énergies et un travail positif.
Et qu'est-ce que tu appelles se réapproprier...
Eh bien, en fait, alors réapproprier la cover, c'était, dans mon sens, c'était en fait se mettre en situation que ce soit difficile de les jouer réellement. On est parti, c'est exactement ça le projet, c'est-à-dire que je suis parti d'une centaine de morceaux et j'ai essayé de trouver un set qui nous permettrait qui soit tellement exigeant dans la manière dont on devrait le faire vu de ce dont on partait. Et au début, c'est une guitare en bois et un caron. Et on joue du Trust, du AC/DC, du... Voilà.
Ah,
on joue
c'est pas tout à fait voilà, l'original.
D'un seul coup, les gens se disent « Ah oui, mais attends, mais ils ont mis un moment à reconnaître le morceau, mais à la fin, ça, ils arrivent à reconnaître le morceau. » Et c'est ce qui était intéressant dans ce projet, c'est que c'était vraiment, voilà, tordre les morceaux le plus possible de manière... Et puis, surtout, montrer aux gens que, ben, finalement, avec deux planches de bois, on arrive à s'éclater toute une soirée, on n'a pas besoin de plus que ça. Et pour nous, c'était libérateur, parce que fini les... tonnes de sonos, de micros, de balances, de machins, de trucs. On arrivait, on pluguait deux trucs et ping, ping, c'était parti. On pouvait faire des trucs acoustiques, des trucs électroacoustiques. Et c'était très facile, très simple à mettre en place. On a eu un certain succès, ça a duré un temps. Puis bon, pareil, voilà. Moi, je suis parti dans d'autres projets de composition parce que j'avais vraiment envie de travailler plus sur mes chansons à ce moment-là. Donc en parallèle, j'ai monté un groupe qui s'appelle Les Saints Hurleurs. J'ai tourné peut-être une dizaine d'années. Donc là, une section plus cuivrée, un peu plus rock-punk. Rock punk reggae, on va dire, dans un esprit un peu festif. Mais ça me rappelait mes plus belles, ma jeunesse, on va dire, avec des chansons un peu rentre-dedans. Puis après, bon, voilà, j'ai continué à tourner avec d'autres copains. Mais bon, voilà, c'était vraiment le cœur du travail.
Ok. Et ça... Depuis ce moment-là, par rapport à tes compositions, hein, j'entends... Comment tu vois ton parcours entre ton premier album éponyme et maintenant là où tu en es ?
Eh ben j'en vois alors déjà une grande progression parce que en se jetant dans ce travail-là, en essayant de faire aboutir une vraie production ou une vraie chanson, ben en fait finalement on la travaille, on l'écrit, on la fait, on la maquette, on la remaquette, on la détruit, on la reconstruit. Et déjà tout ce travail de création de production, ça m'a vraiment plu. Je me suis dit, c'est aussi bien plus intéressant, finalement, que d'aller tourner les concerts dans toute la France. Finalement, au fond, même si on a quelque chose à défendre, finalement, moi, je me retrouvais là, en studio, vraiment très heureux de le faire. Mais en même temps, il m'a toujours manqué, et à ce moment-là, il manquait encore quelques petites armes, quelques petites flèches dans mon carquois. C'est-à-dire que très vite, j'ai appris la gestion de la musique par informatique dans les années 90. Donc, le B.A.B.A. Et donc, on a suivi ça. Maintenant, ces logiciels n'ont aucun secret pour moi. Tout le mixage analogique et la prise de son, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire en studio physiquement, placer un micro, savoir quel micro pour qui, ainsi de suite. Donc, tout le travail de régie, un peu. Mais ce qui me manquait, finalement, au fond, c'est le mixage. C'est toujours une idée subjective. On fait à peu près ce qu'on veut. Hein, ça... Donc ça, c'est pas difficile, mais c'était toute l'étape d'après. Le mastering, la conception d'un produit, les métadonnées, tout ce qui va faire qu'on passe d'une maquette d'un musicien respectable, mais dans le monde amateur, à une production professionnelle. Et cette étape-là, il a fallu que j'aille faire des formations sur Paris, il a fallu que je travaille. Donc j'ai profité de la période Covid okay. pour me former à ces pratiques et à ces outils. Et j'ai eu la chance d'avoir un financement d'audience qui m'a permis aussi d'écrire des logiciels qui sont très coûteux, surtout les licences des logiciels, parce que les logiciels, on les connaît, on sait très bien ce qu'on peut les utiliser comme ça, mais et avoir les licences, ça permet de créer des vrais produits qui vont être identifiés comme tels, et donc c'est ce qui me permet de pouvoir réellement monétiser mon travail et mes compositions. L'album Tessina, bon, qui a été le fruit de tout ce travail, Donc un album que j'ai mis du temps à produire et qui pour lequel j'avais à peu près les moyens de le faire. Et puis avec cette expérience-là, je me suis lancé l'année dernière donc dans l'écriture et dans la création d'un nouveau projet qui s'appelle Le Livre de Ricardo, qui est une aventure qui raconte un peu une aventure ancienne de mes parcours musicaux et puis une envie de goûter à un style musical qui était un peu comme un Everest à avoir. Je suis fan de ce type de musique depuis tout le temps. La musique afro-caribéenne, c'est quelque chose qui m'a toujours emporté. Mais en même temps, je n'étais pas allé aussi loin dans mon travail de musique pour pouvoir y arriver, dans
d'accord,
tas de choses.
Donc vraiment, maintenant, tu commences à arriver près du pic
exactement.
De l'Everest.
Ah non, mais là, j'ai regardé. Maintenant, après, on met son pic où on veut. Maintenant, je considère que je suis sur la colline.
On croit arriver. Et puis après, on en voit une un peu
c'est
plus
exactement
loin.
Exactement. On
plus
va
haute.
Dire que je suis en camp 4. Voilà. Je suis au camp 4 et je suis pas mal.
OK. Et donc, tu as, si j'entends bien, tu as préféré te former plutôt que de te faire entourer de gens qui auraient été capables de faire du mastering ou de la post-prod
C'est tout ça, c'est une question de volonté d'utiliser les outils. Ce pourquoi je veux utiliser les outils, c'est un peu comme si je me mettais il y a une dizaine d'années, par exemple, je me suis mis à étudier la trompette parce que quand j'ai commencé le travail des singes hurleurs, parce que je me disais comment je vais écrire des cuivres. J'avais aucune notion
sans
d'écrire en ut ou d'écrire dans ces clés-là. Donc du coup, je me suis dit, je vais un peu voir quand même où ils y sont. On va voir un peu comment ça se passe, quelle force il faut, pourquoi telle note, pourquoi telle harmonie et pas d'autre, et ainsi de suite. Et là, j'ai compris des choses qu'un cuivre comprend de base, mais que moi, guitariste, j'avais pas forcément pité. Donc dans l'écriture, ça m'a aidé à faire des choses qui soient en phase. Et ça m'a permis de me dire, ça, c'est une corde à mon arc. Et c'est aussi une volonté d'autonomie. Parce que j'ai beaucoup aussi existé et créé et partagé des projets de composition avec d'autres musiciens, des groupes nombreux. Je te parlais de Amigos, Mafat, et ainsi de suite. Je pourrais pas en faire la liste tellement ils sont nombreux, parce que c'est aussi ça la vie de la musique. Mais il y a toujours un moment donné où finalement les projets s'arrêtent pour telle ou telle chose. Et là, la vraie force de ces projets-là, c'est qu'ils s'arrêteront jamais. Ils sont là, ils sont gravés dans le truc. Et moi, je peux les défendre chaque jour. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Je me produis régulièrement sur Aix-en-Provence toutes les semaines. Donc, je peux faire tourner mon répertoire, tourner mes chansons, voir comment ça se passe et toujours être dans cette dynamique-là. Et finalement, c'est quand même vraiment satisfaisant en tant qu'artiste de ne pas courir après une idée, mais que de sentir que cette idée, elle t'habite et que tu peux la faire vivre toi, tout seul, sans être obligé d'en faire appel à un. Après, si je parle du mastering, une personne comme M. Planchard m'a vachement aidé. On a enregistré un disque à une époque dans un studio où il gérait le mastering. J'ai vu la manière dont il travaillait, ça m'a beaucoup appris. Le fait de passer sa petite tête sur les épaules des professionnels, ça sert. Et d'ailleurs, en formation à Paris, c'est ce qui s'est passé. J'ai été entouré de très grands professionnels, de gens qui sont vraiment au fait de ce truc-là et qui nous ont expliqué les choses très très bien quoi. Après, il faut pratiquer. Si tu fais tout ce travail, si tu sais pour tous les outils, la musique c'est comme ça, il faut y aller.
En règle générale. Ok. Ce que je te propose, c'est que du coup, comme tu nous as déjà parlé de beaucoup de groupes.
Ben oui. Un truc de fou.
Sur lesquels tu es passé.
Des groupes de composition, je tiens à le dire. C'est quand même à chaque fois, là on parle de groupe de composition originale où on a tous chacun apporté notre pierre à l'édifice, que ce soit dans l'écriture des textes, dans l'arrangement de la musique ou dans la composition de la musique. Et moi, ma position en tant que guitariste, c'est souvent d'amener la compo. Quoi.
Ok. Et je vous propose de découvrir donc Mafat avec Terre en danger.
Voilà. Un morceau de 2003.
Tu peux nous en dire un mot?
Alors, Mafat, c'est Fabrice Séblé, chanteur charismatique qui a travaillé dans la région. Et on s'est rencontrés un jour dans un concert à Sceaux. Et moi, je travaillais avec un petit groupe de reggae qui s'appelait Rastaworld, qui était dans le Vaucluse. Et lui, il avait comme projet de créer un groupe. Et en fait, il avait créé un groupe avec un artiste réunionnais, d'où Mafat, qui vivait sur le cirque de Mafat. On s'est rencontrés, ça l'a fait. Moi, j'avais quelques compos, le chanteur avait quelques textes. On s'est mis un mois dans une pièce et on a sorti un répertoire. À partir de là, on est entré en studio, on a trouvé des musiciens, on est parti. Et c'était un projet vraiment dans le 04.
Ok, d'accord. Donc ça, c'est pour Mafat. Et puis après, je vous ai sélectionné donc Amigos.
Alors ça, c'est encore plus ancien. On remonte quasiment 10 ans avant. C'est, bah, Amigos, c'est le groupe latino-rock de la famille Campo, des gitans du camp de Manosque, donc Boy et Negrita. Et donc, on a monté un groupe latino tout d'abord avec Boy qui s'appelait Libre Campo, où on a fait des tournées sur la côte. Et nous, on avait une envie de Campo. Donc, on a dit à Tony, le mari de Negrita, et si on faisait un groupe de Campo? Et on a créé Amigos.
D'accord. Et bien, donc là, ça sera le titre Chica del Calor. Hey. Voilà. Alors moi, j'ai hâte d'écouter ça sur Les Singes Hurleurs.
Ah voilà. Alors, projet 2007 aussi. Et oui, parce que je suis sûr que ça va te plaire. Voilà. Moi, ça me plaît beaucoup.
Avec un titre qui s'appelle Mon Hexagone.
Voilà.
On va découvrir donc plus punk que...
plus rock, plus rentre dedans. Ouais, c'était, voilà. Okay. Il y avait un besoin de crier quelque chose à ce moment-là, et c'est ça qui est bien. Puis bon, ben voilà, c'était là, une tendance qui fonctionnait pas mal à l'époque.
Eh ben, on découvre ça avec Cèdre, le Libanais. C'est parti.
Ils ne veulent pas comprendre, le monde est pollué, ils ne veulent rien entendre. Un jour on sera tous brûlés, étalés au sol comme des cendres. Ils auront beau pleurer, la nature ne sera pas tendre, ne sera pas tendre, ne sera pas tendre, ne sera pas tendre.
La
futur ne sera pas tant, ne sera pas tant. La nature ne sera pas tant, ne sera pas tant. La nature ne sera pas tant, ne sera pas tant.
Ok, chica. Está bailando, dale buena alegría, vamos.
Thank you. chaleur sous les tôles, on ne pouvait plus respirer. Comme la saveur d'une geôle, difficile à éviter. Les coups sous goutte qui dégringolent dans mon cou, sous mes épaules, qui dévalent quand de rigole dans la chaleur sous les tôles. J'ai dû quitter mon hexagone, j'avais toujours le cœur mouillé. Il ne faut pas que je déconne, je veux pas me laisser inonder. J'ai dû quitter mon hexagone, j'avais toujours le cœur mouillé. Là j'ai appris que la vie est bonne, tellement j'oublie d'y goûter. Le rasta vient vers moi, me regarde dans les bras. Je ne sais pas où il m'emmène, mais je le suis sans trop de peine. On est arrivé dans le bar, on a sorti les guitares. Comme tous les soirs au sens bar, on va finir vraiment tard. J'ai dû quitter mon hexagone, j'avais toujours le cœur mouillé. Il ne faut pas que je déconne, ne veux pas me laisser inonder. J'ai dû quitter mon hexagone, j'avais toujours le cœur mouillé. Là j'ai appris que la vie est bonne, tellement j'oublie d'y goûter. À s'installer dans les palaces, toujours vouloir être devant, même si on n'a pas de talent. J'ai dû quitter mon hexagone, j'avais toujours le cœur mouillé. Il ne faut pas que je déconne, ne pas me laisser inonder. J'ai dû quitter mon hexagone, j'avais toujours le cœur mouillé. Là j'ai appris que la vie est bonne, tellement j'oublie d'y goûter. S'arrête, les grosses gouttes qui dégringolent sur nos pieds et sur nos têtes. On était tous réunis, la musique toute la nuit, continuer à faire la fête dans la chaleur dans nos têtes.
Et nous voilà de retour dans l'émission Catalyse avec Cèdre le Libanais.
C'est ça.
Cèdre le Libanais.
Ah là, ça y est.
Pourquoi ? Ah, la fameuse question.
La fameuse question et la super anecdote, il faut dire quand même. Alors bon, écoute, à l'époque, dans ma tendre jeunesse, j'ai eu le grand privilège d'être pris dans un groupe qui allait enregistrer son premier 45 tours. C'est un groupe de reggae qui s'appelait Awadiya. Et dans ce groupe de reggae, il y avait un musicien extraordinaire, chanteur, guitariste, et qui prenait... Moi, je m'appelle Cédric, et donc lui, c'était Cèdre. Il disait pas les hic, et donc j'étais Cèdre. Et donc, on a fait ce disque-là, et à l'époque, il fallait faire une audition. Donc, un représentant de la SACEM venait dans ton studio, te faisait écrire 8 mesures en place pour savoir si tu étais capable d'écrire la musique, te faisait voir si tu étais capable de composer avec tes compagnons de musique, si c'était celle que tu allais déposer, et après, tu remplissais ton dossier, et tu partais t'inscrire en payant ton machin à la SACEM. Et moi, le jour où ils sont partis faire ça, j'étais parti dans le sud, déjà avec mes copines, j'étais pas resté sur Paris. Et donc, quand ils sont arrivés devant la secrétaire qui a dit, bon, tous les dossiers sont OK et tout, puis d'un seul coup, elle regarde, elle dit, mais vous avez pas pris de pseudonyme. Tous, vous avez oublié votre pseudonyme. Alors, c'est pseudonyme, c'est-à-dire, oui, il faut un nom d'artiste. Ah bon, alors chacun choisit un nom d'artiste. Alors c'est juste... Là, il fallait le faire tout de suite. Alors voilà, ils avaient pas... ils ont tous des noms d'artistes ridicules comme moi, de toute façon. Mais en fait, Cèdre le Libanais, ça vient du fait que ben, quand quand le chanteur a demandé l'orthographe du nom, il a dit c'est Cèdre. Alors, elle avait vu, moi j'avais écrit mon nom, Cédric, tu vois, elle avait dit Cèdre. Et puis elle a dit, mais pour son truc, c'est Cèdre, oui. Alors, elle dit Cèdre comment? Et l'autre, il a dit, ben, Cèdre comme le Liban. Ah, Cèdre le Libanais. Et elle a écrit Cèdre le Libanais. Et j'ai reçu ma carte de SACEM après, je pourrais te la montrer, je suis trop beau, j'ai les cheveux longs jusqu'à là. Oui, marqué Cèdre le Libanais.
On la mettra en photo.
Et j'ai, comment ça s'appelle, puis finalement, j'ai gardé ça parce que je me suis dit, bon, de toute façon, nom d'auteur, nom d'artiste, bon, moi, déjà, tu vis de la musique, tu fais de la musique, t'es content, peu importe le nom que t'es, ça change pas. De toute façon, tu fais toujours partie d'une entité ou d'un groupe, alors ton nom individuel, personnel, on s'en fiche un peu. Donc ça m'a pas collé. Puis mon grand garçon. Un jour, je me suis posé la question, j'ai dit quand même, c'est le Libanais, je pourrais peut-être changer le nom d'auteur, ce serait pas mal. Il m'a regardé, il m'a dit non, mais papa, c'est super, c'est le Libanais. Alors j'ai gardé. Conseil de mes enfants.
Eh ben voilà, comme quoi.
Voilà, c'est pas mon choix, mais bon, j'ai gardé.
Et par contre, moi, ce que j'ai retenu de ton parcours, là, que tu nous as raconté lors de la première partie, c'est que ton parcours, c'est beaucoup de rencontres au final.
Ah, c'est que ça, la musique. C'est des rencontres, c'est des découvertes, des découvertes d'instruments, des découvertes d'instrumentistes. Dans le voyage, parce que je suis passionné de voyage, j'ai beaucoup voyagé. J'ai eu l'occasion de jouer à New York, aux Antilles, en Asie, toujours partir avec un instrument. Et même professionnellement, j'ai eu l'occasion de jouer à l'étranger. Et il n'y a aucun langage plus universel que la musique. C'est-à-dire que quoi, où tu te trouves, si tu as un petit instrument, mais même avec une petite chanson, on s'en sort toujours, on arrivera toujours à communiquer. Et ça brise beaucoup de barrières, beaucoup de préjugés. Et moi, tout ce que je dois à mon travail, c'est ce que j'ai appris des autres. En fait, ce qui est le plus fort pour moi, c'est les influences que les autres m'ont permis. Que ce soit dans le blues, dans le jazz, je te parlais tout à l'heure de Alan, ce vieux saxophoniste, il avait un grain, ça sonnait, la manière dont il jouait, il était torturé, il avait toute sa vie, c'est un vieux junkie, héroïnomane, enfin vrai, comme on pouvait en trouver dans les années 80. Et franchement, lui, il avait une qualité d'interprétation, mais une faiblesse humaine énorme. Ce rapport entre la faiblesse qu'il avait dans sa vie et la force dans sa musique, et bien c'est ça la grande influence que j'ai, c'est-à-dire l'humilité qu'il pouvait garder et le talent. Donc moi, je considérais que je n'avais pas plus ou moins de talent que ça, mais par contre, j'étais fasciné par sa capacité à embarquer les gens, à créer un son aussi original, aussi fort. Alors que bon, des saxophonistes, il y en a plein, comme des guitaristes. Hein. Mais voilà, il avait une singularité. Moi, j'ai toujours cherché à garder cette singularité en moi. Et en même temps, je sais qu'elle est due et qu'elle vient des influences des autres, en fait, du travail que j'ai fait, que j'ai partagé avec les autres artistes.
Ok. Et donc, à l'heure actuelle, tu en es où ?
Eh bien, à l'heure actuelle, je suis dans plein de projets. Donc, comme je te disais, je me produis régulièrement depuis un certain nombre d'années. Donc, ce qui m'a dans un lieu unique. Donc, ce qui m'a permis une sorte de résidence à l'année. Ce qui m'a permis de poser un peu mon travail et puis d'essayer des choses. Donc, créer des projets. J'ai créé un projet qui s'appelle Rootsman. Donc, avec un tromboniste dans un projet électro. On a fait tourner un peu. On a fait quelques belles scènes. À chaque fois, bon, ben, finalement, au fond, c'est aussi la rencontre, mais après, c'est aussi la vie des uns et des autres. Donc, et en ce moment, après le projet Tessina, je suis parti sur l'idée que je voulais faire tourner un répertoire proche de moi. C'est pour ça que j'ai écrit cette histoire sur le livre de Ricardo, où j'avais envie de me dépasser, d'aller dans des chronos de musique qui n'étaient pas forcément, que j'avais pas forcément exploré avant, à part avec Amigos, mais il y avait très longtemps, puis c'était de la rumba, c'était différent. Donc là, plus jazz, plus vraiment latin, plus salsa, plus bossa, c'était vraiment très intéressant pour moi. Et donc, je continue ce travail de manière solo, on va dire, parce que ça me permet de pouvoir défendre ces chansons. J'écris des chansons et puis la semaine d'après, je les défends devant les gens. Okay. Donc, je suis bien content parce que j'ai déjà tout de suite le retour. Il y a des chansons que j'ai passées à l'as dans cet album-là parce que j'ai compris que ça passera pas, c'est pas forcément ce qui avait accroché, qui plaisait aux gens sur le coup. Puis finalement, avoir un panel d'une centaine de personnes chaque semaine pour venir écouter et juger plus ou moins de ce que tu fais. Bon, je joue dans un restaurant, une brasserie, donc les gens ne sont pas forcément tous attentifs, mais il en suffit d'un qui soit attentif, qui montre son intérêt, et puis on voit tout de suite comment ça fonctionne. Et ça, c'est pour un artiste, c'est vachement important de voir le retour qu'il y a sur le travail. Puis en plus, c'est instantané, ça me permet d'évacuer, de me dire finalement, c'est pas pour rien, je ne suis pas là dans mon studio à écrire des chansons à la pile et puis pas savoir quoi en faire. Déjà, même pour le studio, c'était super. Faire des maquettes, c'est bien, mais moi, je voulais faire des disques. Donc, je me suis donné les moyens d'aller jusqu'au bout pour dire, ben maintenant, si je veux, je fais un disque. Et j'ai besoin de personne pour le faire. Je peux le produire moi-même, ça a un coût, ça a un machin. Donc, il faut pouvoir continuer à se produire, continuer à faire vivre des projets. En ce moment, je suis en train de voir sur un projet qui s'appelle K2. Donc c'est je suis en train de monter ça avec vraiment un vieux pote avec lequel j'ai fait les 400 000 coups quand on était ado sur Paris, et avec lequel j'ai aussi gravi une montagne de près de 6000 mètres dans l'Himalaya. Et donc ça, c'est des aventures qui rapprochent. Et au bout pratiquement 30 ans, même je dirais presque 40 ans, on s'est retrouvés et je lui ai proposé de venir intégrer un duo qui va s'appeler K2. Donc où je vais faire tourner des compos, pareil, où je vais m'appliquer à moi-même ce que j'ai appliqué au cover avec la Marabunta, c'est-à-dire que je vais prendre mes morceaux et je vais les réarranger pour en faire quelque chose de peut-être festif, de tourner vers les autres et tout ça. Peut-être utiliser aussi quelques chansons bien connues du répertoire de la chanson française, histoire d'entamer les discussions et d'essayer de tourner en saison, en station et un peu partout en France avec un projet souple en duo. Donc en ce moment-là, je suis plutôt là-dessus. Puis je suis aussi dans la réflexion de l'écriture d'un nouveau opus, dont mon prochain album, mon cinquième album perso, qui va être dans une tendance plutôt funky, rhythm and blues, on dira. J'ai envie de ça.
Ok. Voilà. Alors, juste pour revenir sur ton projet K2, K2, c'est en rapport avec
la montagne. Le sommet. K2, c'est le groupe ascensionnel. Mmh. C'est le groupe qui monte, qui monte, qui monte, qui monte.
Et donc dans ce projet-là, à la base, c'est une aventure humaine que tu as.
Exactement, c'est la contrainte de travailler avec des formations et des musiciens, des fois des excellents musiciens professionnels, mais qui ont des horizons ou des envies ou des désirs économiques ou intellectuels qui sont pas forcément tout le temps en phase. Et j'ai rencontré souvent des soucis dans le sens où finalement, même si tu montes des projets, des fois, tu es obligé d'abandonner ton projet, même si tu as mis tout ton cœur, parce que tu vas pas forcer les choses. Je disais tout à l'heure, vaut mieux garder des amis que de rester avec des musiciens qu'on supporte pas. Donc du coup, là, l'avantage, c'est que Migou, c'est le bassiste qui s'appelle Migou, lui, c'est quelqu'un avec lequel on a partagé vraiment des choses très fortes. Et on a laissé beaucoup de temps se passer. On a fait chacun notre vie de notre côté. Il a été un des musiciens avec qui j'ai fait de la musique au tout début, quand on venait, qu'on sortait de la Manche, et un gars que j'ai rencontré à l'époque où je jouais dans le métro et tout ça. Donc, si tu veux, là, c'est comme il y a quelque chose de très fraternel dans le fait de se retrouver. Et je veux créer un projet simple, ludique pour nous, et puis qui montre la complicité qu'on a en réalité tous les deux et toutes les histoires qu'on est capable de partager, parce qu'on pourrait rester 2 heures à vous parler du tour de monde et on serait jamais lassé, parce que voilà, on a toujours des belles histoires et des belles anecdotes à se raconter, et ça, c'est important dans le spectacle, parce que ça crée un socle, et le socle est justement, j'ai envie de m'appuyer, j'ai envie de m'appuyer sur cette idée, voilà, de ce qu'on a chez nous ici. On est dans un pays un peu de montagne, de moyenne montagne, voire de haute montagne. Je trouve le truc intéressant. Et puis nous, on a beaucoup de choses à dire. On a beaucoup de, même au niveau de la compo, même au niveau des histoires, j'ai plein de choses à dire sur ces aventures-là, des aventures qu'on a vécues quand on avait 20 ans aussi. C'est pas des aventures qu'on a vécues quand on avait 50 ans. Je veux dire, on était à peine majeur, on a ouvert une carte dans un café, on a fermé les yeux, on a fait ça et on est tombé en plein Tibet. Et on a dit, allez, avec 3 gars, on s'est dit, on y va. Et on est parti. On a pris nos billets, on y est parti sans rien savoir, sans savoir où on allait tomber. On a appris énormément de choses. On a vécu des choses super. Et ça, je pense que c'est quelque chose, cette énergie, ce partage-là, ce qu'on a vécu, je pense que c'est quelque chose qu'on peut retransposer après 40 ans de vie dans un projet qui soit plus artistique, où on va pouvoir articuler. Puis ça crée pour moi un concept, et pour moi le concept est vachement important. C'est bien d'arriver avec sa bouille, son machin, mais c'est bien aussi d'arriver avec toute une histoire autour. Oui, parce que finalement...
Et embarquer les gens.
Voilà, et finalement, des fois, c'est un peu plus important. Il faut considérer tout chaque public. Il y a des gens qui sont attentifs aux paroles. Il y a des gens qui sont plus attentifs au rythme et à la musique, au côté entraînant. Il y a des gens que ça gonfle d'entendre un musicien jouer dans le coin. Il ne voudrait pas se taire, je suis au téléphone ou quoi que ce soit. Il faut prendre en considération tous ces gens-là et essayer de leur apporter ce qu'ils ont envie au moment où c'est et où ça arrive. Et souvent, c'est par le concept qu'on y arrive plutôt que de casser les oreilles, de mettre trop fort. Et puis finalement, toute personne s'entend. Il faut amener chacun à se retourner pour écouter.
Ok, donc le projet K2 avec Migou.
Oui, Migou.
Migou, c'est le Yeti.
Mais vous avez, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou.
C'est ok.
Et c'est vrai, c'est même pas un concept inventé. Justement, sur nos pages Facebook et sur les réseaux sociaux, je verrai qu'on va attacher cette histoire et vous verrez tout le fil du conducteur, parce qu'en plus, la couleur, la gestuelle, c'est vachement, chapka, bonnet de neige et compagnie.
Ok. Eh ben, hâte de...
En station, uniquement ça. En station. Non, parce qu'on s'est dédié le bonnet sur la plage. Ça le fait aussi.
Ça le fait. Ça le fait de partout, le bonnet. Ok, donc avant de, d'aborder la troisième et dernière partie de notre émission, je voulais vous passer donc, un titre de... Hop là. Donc c'est Miss Jamaica.
Miss Jamaica. C'est un morceau qui a été composé par Bastien Langlois. Et donc, on a partagé ce morceau-là sur la scène il y a 2 ans maintenant. Le groupe s'est arrêté maintenant, on a arrêté ce projet. Mais bon, on a eu l'occasion d'en faire un disque, on est allé jusqu'au bout du projet. Et voilà, donc c'est un projet plus électro, et donc guitare électrique, synthé, trombone. Et donc voilà, c'est pas forcément une formation pareil facile à comprendre quand on se dit tiens, un guitariste qui joue avec un tromboniste, ils sont à deux en duo, qu'est-ce que ça donne? Donc voilà, on a travaillé avec des machines et donc pour être dans l'air du temps et puis pour cette envie de musique électro, on a tous envie d'utiliser ces super machines qui font ping pong ping.
Et puis un autre titre qui s'appelle Gadjo
Garalo. Ouais. Alors ça, c'est du pur gitan. Alors oui, c'est une chanson que j'ai écrite cette année, enfin l'année dernière, mais j'ai sorti cette année dans mon nouveau projet, dans mon nouveau album qui s'appelle Le Livre de Ricardo, disponible sur toutes les plateformes en France et à l'étranger.
On vous mettra les liens justement.
Ouais, super. Et donc, Gadjo Garalo, c'est une chanson joue sur la nostalgie, en fait, des moments que j'ai passés avec les forains et les gitans dans ma période où je travaillais beaucoup avec ces artistes et ces musiciens. Donc, on tournait dans les foires, on allait faire la fête à Neuneu, les fêtes foraines, donc où le monde forain retrouvait le monde gitan. Eux, c'était en particulier des musiciens. Voilà, et c'est une chanson qui raconte un peu ces années-là.
Allez, on se retrouve tout de suite après.
Thank you. les chapeaux s'envoler sur la plage, parasol gonflé, la voile rouge, une claque dorée d'une parenthèse enchantée. Que personne ne bouge, les galops sont arrivés, gratter des cartes rouges et glaner quelques lovés. Rien n'est plus beau que le rêve de Ricardo, rien n'est écrit dans le livre de sa vie. Rien ne vaut une guitare dans le dos, rien n'est fini, son rêve il le vit. Les paliers verts nous donnent de l'ombre dans la journée pour patienter, en espérant que la nuit tombe, pas narvalo, on reste au frais. Les grottes du roi nous accueillent pour des soirées de bodega. La tequila nous coule à l'œil et la fiesta n'en finit pas. Rien n'est plus beau que le rêve de Ricardo, rien n'est écrit dans le livre de sa vie. Rien ne vaut une guitare dans le dos, rien n'est fini, son rêve il le vit.
Qu'est-ce que tu vas nous jouer?
Alors oui, je vais vous jouer un petit morceau à ta demande, avec grand plaisir. Donc un petit acoustique guitare chant, et je vais vous interpréter un extrait du... Enfin non, un titre qui fait partie du projet Tessina, album que j'ai écrit et que j'ai sorti en 2020. Et ça s'appelle « La musique est en moi ». Ça résonnera peut-être bien ce qu'on s'est dit tout au long de cette belle émission.
Des tablades, des ringards sur la rive du Gange, des tombales et sans malheur en la baie des anges. Un soleil extra de Bali à Bahia, arrivé jusque là, je ne pense qu'à toi.
Tu m'amuses, on m'amuse, la musique et tout ça, ce n'est pas une ruse, je crois encore en toi. La musique est sacrée, elle nous vient de partout, des endroits reculés qui sont au fond de nous, de la bouche des vents à tes lèvres nacrées, comme des instruments, nos deux corps accordés, chants des sons mêlés, harmonies mélangées. Je ne veux pas que ça s'arrête, l'émotion est parfaite, la musique est en toi. Elle passe par ta voix, la musique est en moi, elle glisse de mes doigts. La musique est en toi, elle passe par ta voix, la musique est en moi. La la da da da, des tablas, des ragas versant la Jamaïque, bel élément, il bat tout au fond de l'Afrique. Acoustique, électrique, c'est tout ça la musique. Comme des instants magiques, le partage est unique. La chaleur de l'été, nos corps enlacés. Rêve de voyage, de nouveaux paysages. Je veux te donner, au rythme cadencé, des milliers de messages, du plus beau des langages. Accompagner, écouter, la musique est partout. Laissez-moi m'évader, il faut que je joue. Les trompettes, les guitares, toutes les nuits dans les bars. Les concerts tous les soirs, juste pour te revoir. La musique est en toi, elle passe par ta voix. La musique est en moi, elle glisse de mes doigts. La musique est en toi, elle passe par ta voix. La musique est en moi, la 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 ta ta ta.
Merci.
Je t'en prie.
Donc c'était Cèdre le Libanais, que vous pouvez donc écouter avec le nouvel album Le Livre de Ricardo. Tu n'as pas eu le temps de nous raconter pourquoi Ricardo.
Tu connais l'anecdote.
Mais voilà, que vous pouvez retrouver donc sur les différentes plateformes en ligne musicales. Et où c'est qu'on peut t'entendre en live?
Alors,
là
vous
bientôt.
Vous pouvez me retrouver chaque semaine. Vous pouvez voir sur mon site cedrelelibanais.free.fr. Je suis chaque semaine à Aix au Centra, donc je joue mes compos et donc tout vous pouvez me voir de l'été comme hiver là-bas. Et puis sur mon site, vous pourrez avoir, et sur les Facebook et les réseaux sociaux, les différentes dates qui sont programmées pour la saison d'hiver et le début de la saison de printemps avec les différents projets, mais aussi pour des projets solo.
Ok, et eh ben
merci à toi.
Merci, merci. À très bientôt.
À très bientôt, merci à tous.
Catalyse sur Fréquence Mistral, l'émission qui vous fait découvrir votre région d'un point de vue musical.
Fréquence Mistral.